Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Voilà, donc une émission particulière ce soir, puisque nous devions effectivement faire ça en public. Pour des problèmes techniques, nous ne pouvons pas le faire. Mais nous sommes donc toujours là pour vous parler un peu de l'actualité sur le chômage et sur la précarité. Donc ce soir au programme, nous parlons bien sûr de l'augmentation du chiffre de chômage qui reste de perdurer jusqu'en 2014 a priori, de la marche des chômeurs, ça va de soi, de la conférence sociale qui s'est déroulée hier et aujourd'hui, et bien sûr peut-être la grève des chômeurs et peut-être également un invité surprise en deuxième partie d'émission. Merci d'être avec nous sur Fréquence Paris Pluriel. Voilà, donc on commence cette émission. C'est merci Ness et à la technique ce soir exceptionnellement, merci à Ness. Bien, Ludo, on va commencer par, si tu veux bien, par les chiffres du chômage, qui a priori, il y a quelques émissions déjà, on parlait des 900 000 chômeurs supplémentaires en plus qui n'étaient pas comptabilisés, jeunes chômeurs qui n'étaient pas comptabilisés. Mais apparemment, il y a effectivement un flux constant de chômeurs en plus qui va perdurer jusqu'en 2014.
C'est oui, ça absolument. C'est une étude de l'INSEE qui est confirmée par l'OCDE qui semble dire que le chômage ne risque pas de baisser avant fin 2013 et qui continuera à augmenter en 2014. On pouvait s'en douter, on a envie de dire. Mais donc pour juste donner un chiffre, hein, les experts de l'OCDE s'attendent donc à un taux de chômage de 11,1% en 2014, voilà, contre 10,7% en 2013. Il ne fait en fait aucun doute que François Hollande ne pourra pas tenir ses promesses, les promesses de campagne qu'il avait faites, d'inverser la courbe du chômage fin 2013. Voilà, et tout juste éventuellement d'atténuer l'augmentation. C'est la baisse de l'augmentation de la baisse. Mais surtout, en fait, ce que dit apparemment l'INSEE, c'est que il est seul, en fait, les emplois aidés de M. Hollande devraient permettre d'atténuer l'augmentation du chômage. Ce qui donc signifie que seule l'intervention de l'État, en fait, peut limiter l'augmentation du chômage. Et par contre, les destructions d'emplois restent très importants dans les secteurs marchands. Et ce qui signifie que, en fait,
c'est-à-dire
la récession.
Les secteurs marchands, c'est les secteurs qui ne sont pas tertiaires. C'est-à-dire que
les secteurs marchands,
où il y a vente de biens et de services.
C'est des secteurs qui n'impliquent pas les fonctionnaires.
C'est ça.
Ou les secteurs associatifs. C'est des secteurs, en fait, qui sont, entre guillemets, concernés par la concurrence. Ce secteur privé, en fait. Ouais. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on est en pleine récession et que la récession va continuer, en fait, va continuer. Et que tant qu'on est en récession, il risque pas d'y avoir d'embellie du chômage, d'embellie sur le front du chômage, comme on dit. Et il y a un autre souci qui est encore plus embêtant, c'est que en plus des destructions de postes, il y a toujours ces cohortes de jeunes, en fait, qui débouchent sur le marché du travail et qui n'ont pas de débouchés. Et il faut bien dire que pour le coup, on a presque envie de dire que non pas tout le monde est concerné par le chômage, mais enfin une classe d'âge entière est concernée par le chômage et que on revient aux années 97. Avec des pics records du chômage.
C'est une génération sacrifiée, encore une.
Encore une, mais ouais. J'ai l'impression qu'il y en a eu beaucoup depuis 20 ans.
Le problème du chômage est un problème apparemment structurel, puisque ça fait 40 ans que ça dure, que fait toutes les promesses qu'ont faites les gouvernants, quels que soient les pays d'ailleurs, que ce soit en Europe ou même, c'est mondial en fait, le problème du chômage a priori.
Là en ce moment, oui.
Oui, tout à fait. Donc les promesses d'Hollande, en fait, ne tenaient que, voilà.
Il fait... Ceux qui les engagent.
Exactement.
Mais alors, ok, mais il faut dire qu'avec Sarkozy, ça aurait été à peu près la même chose.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que, en fait, là, on a... Vous dire là, on a l'OCDE donc confirme ce que dit l'INSEE et la prose de l'OCDE est tout à fait éclairante à cet égard hein, puisqu'ils disent voilà les risques de dégradation par rapport aux prévisions sont importantes surtout si les réformes structurelles sont mal expliquées ou mises en œuvre partiellement et insuffisantes pour rétablir la confiance. C'est-à-dire que avertit l'organisation. C'est-à-dire qu'en résumé, en fait, il ne faut rien faire. Pour lutter contre le chômage. Et donc, on en parlera tout à l'heure, mais François Hollande a va mettre à nouveau en œuvre les emplois aidés. Après, Sarkozy les a pas mal baissés, mais en dehors de ce plan-là, il n'y a rien d'autre à faire que de pratiquer des réformes structurelles. Donc, c'est-à-dire des coupes sur la retraite, des coupes une dérégulation du marché du travail, et donc pas de politique volontariste en fait. Hein. Mm-hmm. Donc, un laisser-faire général qui, le CDE dit même, hein, il faut accélérer les réformes, qui préconise par exemple d'encourager la modération salariale, donc l'écrasement des salaires, et de mettre en œuvre un salaire minimum plus faible pour les jeunes adultes. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains économistes, comme Michel Husson, qui disent que la récession qui couvre, en fait, qui ne date pas seulement de 2008, mais qui couvait depuis 2006, est liée en fait à un écrasement des salaires, c'est-à-dire une destruction de la demande du fait de la stagnation des salaires. Eh bien, aujourd'hui, on est en 2013, il y a 3 millions de chômeurs en France, il y a à peu près 25% de chômeurs en Grèce, il y a 25% de chômeurs en Espagne.
Hallucinant.
Mais la recette, la potion magique de l'OCDE est toujours la même. En fait, il faut baisser les salaires, il faut réduire les protections sociales, ce qui augmente le chômage en fait hein, pour le moment en Grèce
cette politique d'austérité c'est une contre-politique en fait c'est la politique qui va pas marcher hein.
Certains appellent ça une expérimentation libérale, c'est-à-dire un capitalisme du désastre, c'est-à-dire que c'est sur la crise qu'on teste les recettes qu'on n'aurait pas pu mettre en œuvre en temps normal du fait de la résistance des salariés, mais là on mise en fait sur la rancœur des gens qui sont en dehors du système et qui demandent à travailler en dressant les catégories les unes contre les hommes en dressant les catégories les unes contre les autres et en montrant en fait les avantages de certaines personnes par rapport à d'autres. Donc quand j'ai des avantages, je dis bien tous les avantages de toutes les catégories de salariés, c'est-à-dire le CDI est aujourd'hui un avantage, même si les gens qui sont en CDI savent qu'ils peuvent quand même être virés sans trop de difficultés et puis qu'ils payent très cher leur CDI en termes de pression justement, de pression salariale, mais de pression aux cadences hein, qu'on leur impose. Donc ceux qui ont un CDI en France ont le CDE dit il y a les insiders et les outsiders, ce que disent les Américains. Donc les insiders, c'est ceux qui sont dans la place, c'est qui sont protégés. Les outsiders, c'est ceux qui sont en dehors. Et donc il faut casser les protections pour qu'il y ait des passages entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez la démarche. Et alors donc en France où on a particulièrement un droit du travail qui est relativement protecteur, on est pas les seuls hein, puisqu'il y a aussi l'Europe du Nord. Là évidemment, alors les fonctionnaires, ils sont dans la ligne de mire. Et donc il s'agit de détruire les protections, d'abaisser les salaires, de mettre tout le monde en concurrence en fait. Hein.
C'est ça.
Et c'est une potion magique, c'est une recette magique. Je veux dire par là qu'à un moment donné, c'est ce qu'ils écrivent, la confiance reviendra. Et avec la confiance, la croissance, le mot magique croissance repartira.
Oui, d'autant plus que dans leur boîte à outils, les entreprises maintenant, elles ont des formes de CDI qui sont tout à fait nouveaux, qui sont ça vient de sortir. Enfin, je sais pas trop d'où ça vient hein, finalement. C'est des CDI à la carte, donc des CDI partiels. Hein, donc ça, c'est par exemple, tu es embauché en CDI, mais tu fais que 40% de ton temps dans l'entreprise.
Tu peux être à temps partiel en CDI. Hein,
tout à fait. Non, mais là, ça devient de plus en plus généralisé. J'ai l'impression, hein. Et puis effectivement, il y a les CDI. Donc maintenant, il y a l'annualisation des salaires, c'est-à-dire qu'on paye, sur l'année. Et donc il y a les périodes où l'entreprise prend les salariés à taux plein parce qu'effectivement il y a du travail. Et
ah puis, oui, c'est dans les accords de flexibilité en fait, qui fait qu'effectivement tu peux prendre en compte. Au départ, c'était présenté comme une avancée, c'est-à-dire c'est une revendication syndicale d'ailleurs. Hein, il s'agissait de mensualiser, enfin d'annualiser, mais de mensualiser en réalité des périodes de salaire qui étaient temporaire, mais c'est-à-dire qui était saisonnière, c'est-à-dire qui dans le cas du travail en intérim notamment, quand on avait travaillé je dis n'importe quoi 8 mois sur les 12, on pouvait avoir le salaire qu'on avait gagné sur les 8 mois mensualisé en 12, et donc a priori c'était une lutte contre la précarité. Maintenant tu as raison sur un plan, c'est qu'en fait aujourd'hui l'intérim souffre énormément en fait plutôt les gens qui travaillent en intérim souffrent énormément de la situation, puisque c'est eux qui sont les premiers, qu'on jette les premiers. Donc on prend et qu'on jette les premiers. Donc ils sont dans une situation de précariat généralisée et institutionnalisée bientôt, institutionnalisée par les différents gouvernements précédents. Hein, je rappelle que le RSA, au départ, il s'agissait de... C'était un complément pour les gens qui étaient en dessous du SMIC et qui pouvaient cumuler... Donc une rémunération, un temps partiel, donc, avec une rémunération qui était en dessous du SMIC et via une compensation, grâce à une compensation de l'État. Et donc, une étape est franchie il y a une étape supplémentaire avec ce type de mesure.
Alors, ce que je propose, c'est de partir un petit peu sur la façon dont les chômeurs peuvent éventuellement aujourd'hui se mobiliser contre cette politique d'austérité, parce que maintenant on a vu que parce qu'on est d'abord une radio de combat, donc c'est une radio qu'il faut qu'on dise les choses. Il y a effectivement un certain nombre de choses qu'on peut faire pour effectivement se faire voir, se faire entendre, faire réagir les pouvoirs publics, etc. Et depuis un certain nombre d'années déjà, même pas mal d'années, il existe ce qu'on appelle la marche des chômeurs. Donc c'est donc chaque année ça part d'un endroit différent. Donc on peut partir de Toulouse et ça dure à peu près entre un mois et demi. Et donc cette marche, les gens marchent sur les routes et s'arrêtent chaque nuit dans un village ou une ville et rencontrent l'élu, rencontrent les gens du coin et discutent sur la situation pour que les gens prennent conscience un peu de la situation qui est malheureusement, si on écoute que TF1 et puis France 2, on n'est pas très très renseigné.
Alors c'est un avis tout personnel. Hein.
C'est un avis personnel, mais que je partage avec moi-même, c'est déjà pas mal. Alors il y a un truc qui est quand même intéressant, c'est que cette marche des chômeurs est lancée cette année par le Mouvement National des Chômeurs Précaires, le MNCP. Et qui est parti donc de la Réunion et qui va passer le 23 juin à Toulouse et finira à Paris, place de Stalingrad, le 6 juillet. Donc le 6 juillet, Parisiens et tous les gens qui habitent l'Île-de-France, venez soutenir le mouvement en venant à Stalingrad entre 11h et 14h pour participer à cette grande festivité sur cette grande place. Alors, voilà.
Je voulais moi rappeler que AC avait été créé aussi suite à la marche des chômeurs, à la première marche des chômeurs qui s'était déroulée en 93-94. Il s'agissait à l'époque de montrer qu'en fait c'est pas parce qu'on était chômeur qu'on était invisible, puisque comme vous le savez le problème des chômeurs, c'est d'abord la culpabilité. Il y a une intériorisation de espèces de culpabilité, donc la discrétion et l'atomisation, le fait qu'on n'est plus en groupe pour se défendre. Donc on peut effectivement être dans un pays avec 3 millions de chômeurs et aucune mobilisation sur le sujet. En tout cas, on ne se présente pas comme chômeur. On peut avoir des mobilisations étudiantes, de futurs chômeurs. Mais en tant que chômeur, c'est rarissime. Et donc, c'est vrai que les sociologues ont dit pendant des années que le chômeur n'était pas une force sociale. C'est-à-dire qu'il n'était pas capable, comme il avait perdu toute utilité de toute façon, et qu'il en avait bien conscience, il était absolument incapable de se revendiquer, d'avoir une conscience de classe, donc la classe des chômeurs, de se mobiliser pour revendiquer des droits. Donc, en 94, donc au moment du début de la montée de la crise, d'une montée du chômage qui s'est arrêtée en 97, et bien qu'il y ait déjà eu des associations de chômeurs auparavant, au moins depuis les années 80, puisqu'il y avait quand même des gens qui étaient concernés dans les années 80, C'était la première fois qu'on avait une tentative pour rendre les chômeurs visibles et pour exprimer par ce biais les revendications qui ont été une à une reprises. Donc, alors, par exemple, hein, évidemment, ça pourrait paraître symbolique, mais c'est important pour des gens qui ne bénéficiaient que du RMI, pour certains. C'était effectivement une prime, ce qu'on a appelé plus tard la prime de Noël, mais enfin qui était une prime exceptionnelle de fin d'année. Une réduction du temps de travail. Alors, je rappelle que c'était en 94 et que Martine Aubry arrivait au pouvoir. Alors, évidemment, les chômeurs étaient pour 32 heures. Que Martine Aubry au pouvoir est passée aux 35 heures. Donc une réduction du temps de travail, évidemment, pour partager le travail. Une indexation des indemnités acédiques, c'est-à-dire une revalorisation régulière en fait des indemnités acédiques, et un des grands projets qui n'a pas encore été abouti, c'était évidemment le revenu d'existence, garantie d'existence.
Voilà. C'est un gros sujet, d'autant qu'en ce moment, il y a débat sur le sujet.
Justement, alors, le monde diplomatique en a parlé récemment, et c'est vrai qu'en fait, ça tombe, vu que la crise met de plus en plus de gens, en fait, dans des situations de fin de droit et dans des situations impossibles, c'est un sujet qui redevient d'actualité. Or, bon, le revenu d'existence, au départ, finalement, c'est un RMI qui serait un super, super, super RMI.
C'est ça, c'est amélioré. Oui.
Donc il reste encore. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tous ces mouvements de chômeurs qui sont venus à la fois aussi en partie du monde syndical n'ont pas été inutiles dans le traitement du chômage qui a suivi, même si c'est pas la panacée, même si on se retrouve quelques années plus tard avec 3 millions de chômeurs. Et donc ces marches ont été utiles. Et puis c'est une occasion pour les gens qui s'y trouvent de discuter avec des gens qui les voient passer, et puis de débattre entre eux de solutions potentielles. Et on a qu'une critique à faire, c'est qu'évidemment les chômeurs ne sont absolument pas représentés dans les instances, par exemple de l'UNEDIC.
Absolument.
Ou même là la conférence a lieu en ce moment, puisque la marche a eu lieu en ce moment, puisqu'il y a la conférence sociale le 20 et le 21 juin, et là il n'y a aucun chômeur qui est représenté, donc il s'agit de se montrer, quoi, dire qu'il y a des chômeurs et qu'ils sont visibles.
Alors on va écouter une petite chanson et ensuite on va reprendre la parole. Merci.
Et l'ami, prête-moi main forte, à deux poussons la lourde porte.
Ami, ne désespère pas, le jour viendra. Ami, ne désespère pas.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Je tiens à remercier Inès pour cette première partie de technique. Et maintenant, c'est Claude à la technique qui reprend le flambeau. Voilà, alors donc, l'invité surprise est arrivé. C'est Florian qui est effectivement chômeur et qui lui appartient à la CGT chômeur. Et qui est apparemment de province et qui est sur Paris depuis quelques jours, c'est ça?
Non, pas du tout.
Pas du tout, pardon.
Je suis parisien.
Ah, tu es parisien.
D'accord.
Ok, très bien. Alors dis-moi un petit peu, peux-tu nous dire un petit peu pourquoi tu t'es engagé autour de la CGT, pourquoi tu t'es engagé à CGT chômeur et quel est ton parcours un petit peu?
Oui, pourquoi la CGT chômeur, effectivement? La CGT chômeur, déjà, parce que je pense qu'effectivement, dans une organisation de chômeurs, ce qui peut être utile, c'est quand même de faire le lien avec le monde du travail, avoir une interconnexion, aussi une organisation qui soit assez large, qui permette de mieux se défendre en fait globalement par rapport aux attaques. Et il y a également aussi le fait que malgré tout dans la CGT chômeur on défend un petit peu cette idée que on n'est pas seulement des chômeurs, on est surtout des privés d'emploi et qu'on reste salarié avant tout.
D'accord. Alors justement, on parlait juste avant que tu arrives, on parlait de la marche des chômeurs et des formes de lutte un petit peu pour que les gens puissent prendre conscience de ce moment que le chômage existe et puis que les gens sont un peu en souffrance par rapport au travail et également par rapport à leur vie quotidienne. Et qu'on avait du mal à mobiliser autour du chômage, en tout cas que les chômeurs avaient du mal à se mobiliser entre eux déjà pour se faire voir. et qu'effectivement, ils n'étaient pas représentatifs et pas spécialement dans les instances à l'UNEDIC, etc. Parce que bon, c'est que les grands syndicats qui sont représentés là-bas, les quatre qu'on connaît, CGT, etc.
Sauf la CGT chômeur.
Via
la CGT, en fait.
Alors, est-ce que la CGT chômeur force un petit peu le pion aux instances, aux grandes instances pour pouvoir participer à ces conférences ou...
C'est-à-dire à sur la marche des chômeurs, c'est
non, sur justement le problème de l'UNEDIC, dans ces grandes conférences.
La représentativité,
la représentativité des chômeurs.
En fait,
des chômeurs
est-ce qu'effectivement, disons, est-ce que dans votre organisation, vous avez une position sur la question?
Mais on est représentatif, on est dans les pôles emploi et on est une base consultative, donc on existe, on est bel et bien là où on peut être, quoi.
Ok.
Et d'accord. Alors en termes de juste une question technique, après on parlera de toi plus précisément. Ça va, tu entends bien là?
Oui. Non, j'entends pas juste.
D'accord. Ben écoute, ça, c'est pas grave. Je vais juste te demander un petit peu si la CGT chômeur représente combien de personnes au jour d'aujourd'hui en termes d'actifs qui militent vraiment.
Alors la CGT chômeur, moi je connais pas les chiffres honnêtement.
Oui.
Je pense que ça doit être autour probablement de 2000 personnes, je pense.
2000 personnes, ouais. Sur la France entière. Mmh. D'accord, très bien. Alors dis-nous, Florian, peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours? Toi, tu travaillais avant, tu t'es retrouvé au chômage?
Oui, voilà, exactement. Ouais. Alors ouais. Moi, en fait, je travaillais dans une entreprise de grande distribution suite à des grosses difficultés en fait de santé. Je me suis retrouvé en fait invalidé professionnellement. Je me retrouve au chômage depuis un an avec de grosses difficultés à retrouver un emploi stable, un CDI, avec aussi une pression du pôle emploi sur des radiations. Notamment, j'en ai subi une il y a de ça 2 mois là. C'est-à-dire que c'est une privation de revenus qui peut tomber comme ça simplement sur le simple fait que moi j'ai déménagé et que j'ai pas reçu certains courriers. Donc c'est automatiquement à partir de ce moment-là une radiation. C'est une lutte pour récupérer simplement ses droits. C'est-à-dire que effectivement, ce qui est dur dans la situation de chômeur, c'est que déjà on tombe sur une situation de dépit professionnel où on se retrouve effectivement inactif et d'autre part effectivement on est très surveillé et très très fliqué, quoi.
Ouais. Alors comment ça se passe quand tu déménages? Est-ce que tu naturellement tu vas avoir une autre l'agence de Pôle emploi où tu désormais à côté de chez toi en fait où tu as déménagé? Tu peux nous expliquer où est-ce qu'administrativement c'est kafkaïen?
C'est kafkaïen. Moi, pour le coup, moi je peux raconter ça effectivement. C'est-à-dire que je dois passer à mon ancienne agence qui visiblement n'est pas tout à fait au courant de mon dossier. C'est vrai, après
ils sont un peu débordés.
Voilà, ils sont exactement, ils sont très débordés, quoi. Je me retrouve effectivement en situation où je dois passer par mon ancienne antenne pour passer à la nouvelle. Là aussi, encore une fois, alors pour mon cas concret par exemple, c'est avec une perte de dossier. Les dossiers ne sont pas transmis ou ont disparu. Donc je pense qu'effectivement il y a de vrais problèmes de personnel, ça c'est visible, hein. Toute personne chômeur connaît effectivement ces queues interminables, ces personnes débordées qui n'ont pas vraiment le temps de traiter les dossiers, le fait aussi qu'il n'y ait pas réellement de référent. Tout ça, c'est assez problématique, effectivement.
Oui, pas de problème. Enfin, en principe, il y a un référent, mais c'est sûr qu'avec, je sais pas, une centaine, voire 200 dans certains cas, personne à gérer, c'est un peu compliqué. Mmh. Et puis, si on ajoute les problèmes de la fusion, ça fait beaucoup. Et donc, du coup, t'as été radié suite à un cafouillage, alors?
Suite à un cafouillage. C'est-à-dire que c'est simple, effectivement, c'est suite à un déménagement, une transmission de dossier, mais malgré tout, le courrier qui continuait à arriver à mon ancienne adresse.
D'accord.
Une convocation à un entretien à laquelle, bien sûr, je n'ai pas répondu puisque je n'ai jamais reçu la lettre. Et c'est effectivement, la radiation tombe automatiquement.
Et évidemment, tu leur avais dit que tu avais changé d'adresse entre-temps.
Oui,
mais ils n'avaient pas noté, quoi.
Oui, c'était fait, oui.
D'accord. D'accord. Alors juste pour reprendre la conversation sur ton sentiment sur la façon dont les chômeurs se militent et se positionnent politiquement, je veux dire, contre ce qui leur arrive. On parlait de la marche des chômeurs. Tu as déjà entendu parler de la marche des chômeurs?
Oui, je suis au courant.
Ton opinion là-dessus? Alors,
mon opinion, moi, je trouve que c'est une initiative qui est très bonne. Le petit problème, effectivement, c'est que la CGT chômeurs s'est pas positionnée sur cette marche des chômeurs. Parce que effectivement, c'est peut-être pas tout à fait notre ligne. On est plutôt sur une revendication de revalorisation des salaires afin de revaloriser les allocations chômage, tandis que la revendication, la portée, serait plutôt celle de revaloriser uniquement les allocations chômage.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous dissociez pas la lutte du travailleur de la lutte du chômeur. En fait.
Exactement.
Pour vous, c'est une partie. Et pour vous, en quelque sorte, effectivement, l'augmentation des salaires, c'est mécaniquement une augmentation des indemnités.
Oui, oui.
Mais enfin, et le déficit de l'UNEDIC, oui. Je m'assure, vous rêvez, quoi.
Oui. On sait qu'il y a un déficit horrible, qu'il est impossible. Non, mais plaisanteries mises à part, effectivement, je pense là quand même qu'on touche quoi, peut-être au nerf de la guerre, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait très bien que l'argent, elle existe ailleurs, de toute façon, quoi. Il suffit de regarder, et je m'amusais à le faire hier sur Internet, les grandes fortunes françaises. On voit des revenus mirobolants. On se demande comment ça se fait, effectivement, qu'on n'arrive pas à financer un salaire décent à des salariés, y compris des allocations chômage décentes aux chômeurs, le temps, effectivement, où ils se retrouvent sans emploi.
Très bien. Bon, sur cet entrefait, on va écouter une petite chanson, ensuite on reprend la parole. Merci.
Rue anonyme, il y a partout des Jésus qui barbarie.
Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Je suis ce soir, donc si j'ai le micro, avec Ludo et Florian de la CGT Chômeurs.
Bonsoir.
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 Et puis bien sûr Claude à la technique, comme d'habitude. Voilà. On reprend cette émission. D'abord, je tiens à signaler quand même que la première chanson était de Léo Ferré et que la seconde était aussi de Léo Ferré, mais chantée par Delgier, hein, un chanteur qui est venu à plusieurs reprises dans cette émission, qui est un camarade anarchiste, voilà, qui chante très très bien. Et nous avons le malheur de vous apprendre que c'est en fait la 30e année de la mort de Ferré qui fait en fait que voilà. C'est pour cette raison que j'ai passé deux chansons.
Vous n'entendez que ça.
Voilà, on entend que ça.
D'emploi.
C'est un grand copain, enfin un grand copain, je le connais pas personnellement, mais disons que voilà. C'est un grand copain de cœur, voilà. Donc on reprend cette émission. Nous allons maintenant parler un petit peu de ce qui peut nous fâcher ou bien nous ravir, on ne sait pas trop. La conférence sociale, apparemment, s'est déroulée hier et aujourd'hui, Ludo, pour donner peut-être un certain nombre de résultats pour les travailleurs et pour les chômeurs, ou alors pas du tout. Alors, dis-nous un petit peu ce qu'il en est.
Voilà. Bon, eh bien, oui, chaque année, maintenant, il y a une conférence sociale donc qui est organisée par François Hollande, et il paraît que c'est vachement bien, en fait, parce que donc François Hollande est un grand CFD-théiste. Un grand partisan du dialogue social. Et donc, lui, il a dit que désormais, il ferait pas comme Nicolas Sarkozy et que d'abord il l'instituait pour qu'il y ait une discussion entre partenaires sociaux et qu'ensuite il légiférerait. Un bon social-démocrate et voilà. Et je résume sa position. Mais du coup, blague à part, le problème c'est que il s'est engagé à baisser le chômage d'ici fin 2013. Et donc, comme on l'a vu en première partie d'émission, les prévisions font que nakache et il y a très peu de chances que ça arrive. Et donc, son seul remède, c'est des choses qu'on connaît par cœur en fait, c'est-à-dire des recours aux emplois aidés. Alors, il faut se souvenir qu'en fait, les emplois aidés, finalement, à l'époque de Jospin, ça avait relativement bien marché. Puisque ça donnait c'était un espèce de premier emploi pour des gens qui n'en avaient pas et qui leur permettait éventuellement d'accéder à l'emploi. Alors le problème, c'est que finalement, c'était les jeunes qualifiés qui en avaient profité. qu'il avait utilisé comme marchepied pour accéder au marché du travail. Et puis, il paraît qu'il y avait eu un effet, dans l'effet de confiance un peu général, qui fait que ça avait été très bien utilisé. Mais à l'époque de... Bon, à l'époque, en période de crise, on sait que ces emplois ne débouchent pas sur des emplois pérennes. Donc, c'est vraiment des pis-allers pour des gens qui sinon ils restent inscrits au chômage, que c'est des contrats qui sont sous-payés, mais surtout que qu'à un moment donné ça porte tellement peu leur fric que la droite, notamment à l'époque de Villepin et puis de Nicolas Sarkozy, a réduit drastiquement le nombre d'emplois aidés au cours des dernières années. On est passé de 500 000 à peu près à 300 000, un peu moins de 300 000. Or, en période de crise, finalement, c'est de nouveau le levier qu'on va utiliser, mais sachant que, donc, d'après les prévisions de l'INSEE, en fait, c'est le seul, c'est seulement ce type d'emploi, donc ultra mal payé, hein, des contrats d'avenir partiels, qui peuvent freiner l'évolution, limiter l'augmentation du chômage, en fait. Il y en a pas d'autres. C'est-à-dire que si on laisse les choses faire telles quelles, le chômage va encore augmenter et augmentera. Voilà. Et donc on a tout un barnum là-dessus. Donc arriver à pousser les emplois Génération d'avenir à 100 000 personnes, foutre des jeunes en qualification, mais dont on connaît le résultat par avance, c'est-à-dire que ça va pas régler du tout le problème du chômage dans les années qui viennent. Donc en fait, cette conférence sociale, en fait, il a insisté là-dessus sur ce premier jour pour éviter la question des retraites ou ne pas y passer toute la conférence et puis mais en termes de politique pour l'emploi, oui, c'est un peu maigre. Et alors, donc, deuxième chiffon qui est agité, c'est les emplois vacants, les emplois non pourvus. Donc il faut se souvenir que Villepin les estimait à 500 000, mais bon, on savait pas trop d'où sortaient ces chiffres. Là, Hollande est un peu plus réaliste, il les estime à 100 000, mais dont on a, l'étude en fait est quand même, s'avère difficile. On a du mal à établir quels sont ces types d'emplois vacants. Est-ce que c'est des emplois, on peut pas dire que ces emplois vacants qui sont vacants en permanence, ces emplois qui sont vacants à un moment donné. Donc ça peut être des courts missions d'intérim qui ne sont pas pourvus, par exemple, ou des emplois qui sont tellement déqualifiés que en fait ils deviennent statistiquement vacants parce qu'il y a une rotation, un turnover qui est tellement important qu'à un moment effectivement les employeurs affichent toujours un besoin dans ce domaine-là. Donc ça peut être aussi des emplois qui sont, je pense un peu à la restauration notamment, des emplois qui peuvent être très très mal payés. Et donc tout ça, on a envie de dire en fait tout ça pour ça, puisque finalement la conférence sociale
qui n'a duré que deux jours
bien sûr, mais une conférence sociale, ça fait un grand outil de communication à l'égard en fait des organisations syndicales qui sont pas dupes, bien sûr, et à l'égard du grand public, pour attendre que l'orage passe en fait, hein, et que quelque part, ou attendre que la magie libérale fasse son effet.
Est-ce que deux jours de conférence sociale, c'est pas un peu court, parce qu'on va pas en deux jours résoudre un problème qui dure depuis 30 ans, en fait?
Non, mais justement, c'est pour ça qu'on comprend pas très bien le procédé, quoi. D'autant que finalement, on sait que moi, je pense que sur la réforme des retraites, ils préparent simplement le terrain. Donc là aussi, c'est de la communication, puisque, il y a fort à parier que le gouvernement sur le sujet finisse par passer en force. Il essaye aussi de se mettre dans la poche des organisations patronales. Et là, il y est sûr d'y arriver sur la réforme des retraites, c'est évident. On a presque l'impression que c'est une façon de faire pression en fait sur les organisations syndicales via ce type de promotion du dialogue social, en fait.
D'accord. Et tu as toi, en tant que citoyen ou chômeur, tu as une idée un petit peu de ce qui se passe au niveau des toutes ces conférences, ces gens qui font des rapports sur la situation économique du pays, sur l'emploi, etc., pour déboucher finalement sur des résultats qui sont assez minces finalement pour l'ensemble des gens qui...
Oui, oui, je suis relativement d'accord, effectivement. On est presque dans le fumage, là, effectivement. Voilà, moi, j'entends parler, effectivement, de réduction de la courbe du chômage au fur et à mesure du temps. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. On est quand même sur, je crois, le mois d'avril, 30 000 chômeurs de plus. C'est l'équivalent d'une petite ville. Je crois qu'il y a un vrai drame. Les chômeurs, il n'y en a jamais eu autant. C'est alors... invoquer, faire des mesures incantatoires comme ça, qui en plus, effectivement, là-dessus, je suis tout à fait d'accord, permettent de mieux cacher la véritable forêt, quoi, c'est-à-dire la réforme des retraites et le temps de cotisation qui va passer quand même de 37 ans et demi à 44 années, là, effectivement.
En quelques années, ouais, c'est pas mal.
C'est quand même 7 ans de plus pour les travailleurs. On se demande, moi qui ai 30 ans aujourd'hui, je me demande si un jour j'aurai ma retraite, mais bon.
Une retraite, oui. Laquelle, ça,
voilà,
c'est
voilà, voilà, exactement. C'est-à-dire, est-ce que ce sera réellement une retraite? Est-ce qu'il faudra pas travailler en même temps, ce qui est déjà le cas de pas mal de retraités, effectivement. Mais bon, voilà. Moi, mon impression générale de tout ça, c'est qu'effectivement, on n'est pas sur des réelles solutions. On est juste sur de l'enfumage. Effectivement, peut-être avec un rôle des syndicats qui est pour certains très discutable. Très discutable et voilà, c'est je pense que là rien ne s'arrange, quoi, en tout cas.
Alors justement, dans cette conférence sociale, Ludo, est-ce qu'en dehors de ces problèmes d'emploi et d'etc., il y a eu d'autres sujets qui ont été traités, qui ont trouvé un petit peu une solution ou pas du tout, non?
Ben non, mais j'ai pas l'impression que c'est pas le principe de ces conférences. Ouais, ouais. Mais non, alors il parle je le cite comme ça, mais parce qu'on connaît pas vraiment la portée réelle de ce qui est soulevé. C'est, paraît-il, que finalement, s'il y a des emplois vacants, c'est parce que les chômeurs refuseraient de prendre un emploi qui serait moins bien rémunérés que leurs précédents. Alors, faut voir qui est vraiment concerné, parce qu'à mon avis, effectivement, il y a peut-être des cadres à qui ça arrive. Je suis pas sûr que des travailleurs lambda. Bah, alors, je sais pas.
C'est vrai qu'un patron qui touchait 5 millions par mois et qui se retrouve à toucher 2 millions, il est pas content, quoi. Donc, il va peut-être refuser un emploi.
D'accord, mais après, il y a des gens, oui, quand même, qui refusent effectivement d'être déqualifiés. Ouais. Donc, Hollande, qui est quand même quelqu'un de bien, il faut le dire, finalement, il a proposé que l'État paye le supplément du salaire perdu.
C'est bien.
Voilà. Oui, mais alors, bon, la question, c'est pendant combien de temps? Et puis, pendant combien de temps l'État vient à la rescousse, en quelque sorte? C'est-à-dire, paye ce que la collectivité paye ce que les employeurs ne payent plus, en fait. C'est-à-dire, y compris pour le RSA, y compris pour, je sais pas, à chaque fois qu'on réduit l'indemnisation des chômeurs, finalement, c'est l'État qui, ça augmente le nombre de RMistes, ça augmente le nombre de gens qui sont à l'ASS. Et donc, tout ça, c'est l'État qui finance directement. Donc, c'est la collectivité. Alors, et donc, il y a une institutionnalisation une acceptation de la baisse perpétuelle des salaires, qui fait que, bientôt, on va tous se retrouver aux revenus, universel garanti, parce qu'il est, enfin, pour une masse de gens, c'est la seule chose qui restera, quoi.
Alors justement, pour revenir un petit peu à ce revenu d'existence dont on parlait tout à l'heure un petit peu, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui m'avait choqué dès qu'on en a parlé un petit peu assez, même avec les autres mouvements des chômeurs à l'époque, c'est que l'idée de ce que je m'en souviens, c'est que l'idée à l'époque, c'était effectivement de la naissance jusqu'à la mort pour tous. Un revenu, voilà. Donc
pour tout le monde.
Et moi, justement, j'étais pas tout à fait d'accord à l'époque, et peut-être que je ne suis pas tout à fait d'accord encore aujourd'hui. C'est que qu'on naisse, comme disait la chanson, dans une famille à Neuilly, qui a beaucoup d'argent, ou bien à Pantin, dans une famille ouvrière, on n'a pas le même besoin.
Donc, ça mais la réponse était trouvée dans le même, c'est qu'en fait, par l'impôt, on était censé récupérer les sommes qu'on avait versées. Mais c'était même... une façon d'accorder. Non, mais je disais, donc dans l'article du Monde diplomatique, il parle de ça. Effectivement, au moment du RMI, ils avaient hésité à conditionner, parce qu'au départ, le RMI, c'était censé censé aider les gens à s'insérer. En réalité, ça n'a pas du tout marché. Mais déjà, au départ, il y avait ce débat. Est-ce que si c'est un droit, il n'y a pas de contrepartie exigée des gens. Et donc, donc là, c'était pas universel. Mais si on part d'un principe que le revenu d'existence doit être universel, il doit être réellement garanti pour tout le monde, en fait. Hein, y compris pour des enfants qui seraient en rupture de banc avec leur famille, en quelque sorte. Et sachant que ça aide à l'autonomie des jeunes, en fait, de profiter de ça, quoi.
En tout cas, le revenu de garantie universelle, ça va coûter beaucoup d'argent à l'État. Donc, il faut que l'État récupère cet argent ou par l'impôt, évidemment. Ou bien, faut que les richesses se disent, faut qu'on partage les richesses, quoi. C'est clair que on peut pas avoir des gens qui sont dans la rue sans toit et puis au chômage sans argent, et de l'autre côté de la barricade, des gens qui émargent à des milliers et des milliers d'euros, quoi.
Ça nécessite un prélèvement, mais oui, ceci dit, ça réglerait ce que disent certaines personnes, c'est que ça réglerait peut-être les problèmes de chantage par rapport à la baisse des salaires, en fait. C'est-à-dire que ça obligerait, en fait, ça redonnerait au marché du travail une vraie capacité de négociation, en fait, qui a été perdue à mon avis depuis longtemps, et une vraie possibilité aux salariés de pouvoir faire ce qu'ils ont envie et ou pouvoir monnayer leur soi-disant force de travail, comme on dit, mais pour le coup vraiment de la monnayer et pas d'être soumis à un diktat patronal, quoi.
Alors moi j'avais juste une petite, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'avais trouvé qu'il y avait une idée de Mélenchon dont il avait parlé pendant les élections pour être élu. Il avait parlé d'un écart de salaire entre 1 et 20 entre patron et salarié. Et je trouve que c'est pas mal finalement, parce que maintenant, enfin, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même des écarts qui sont de 1 à peut-être à 200, quoi. Je sais pas trop, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vrai que 1 à 20 finalement, c'est...
Ça dépend qui tu prends, oui.
Oui, ça dépend qui je prends.
C'est sûr, si tu prends Carlos Ghosn à 13 millions
oui, c'est clair.
par an, c'est ça, oui. Donc ça c'est fait, oui.
Enfin, il y a des solutions, je suis sûr que il manque juste la volonté politique, quoi.
Sur cette rémunération des patrons, il faut savoir, en fait, la France se présente souvent comme le grand pays avec des valeurs universelles et toujours à la pointe du progrès. Mais en réalité, il y a des... Par exemple, les Suisses ont voté par référendum pour limiter les
salaires, ouais.
Les salaires des grands patrons. Et il existe même dans les pays anglo-saxons des systèmes de rémunération qui sont votés par tous les actionnaires, y compris par les petits actionnaires. Ce qui, dans certains cas, peut limiter... En fait, la prime accordée aux patrons en fonction de leurs résultats. En France, on sait que c'est effectivement dans les conseils d'administration où les actionnaires majoritaires décident, mais que grosso modo tout le monde est d'accord pour accorder tant d'argent à un tel ou à un tel, et que c'est un petit milieu qui, c'est des pratiques, hein,
qui sont gratuites et qui s'auto.
Et donc, les patrons ont eu vraiment peur. Enfin, ces patrons-là ont eu vraiment peur que Hollande applique une limitation, enfin des bonus, mais la France reste un pays réactionnaire sur la question par rapport à d'autres pays malgré tout. C'est un pays très conservateur,
oui, très libéral, voilà. Finalement quelque part.
Non, parce que non. Alors moi justement je trouve que finalement d'une certaine façon il serait peut-être moins libéral que parce que finalement c'est pas juste, alors que le libéralisme prétend être juste. Et quelque part, il le prétend. Donc, s'il le prétend, tu touches ce que tu mérites, qui va justifier de 13 millions de bonus mensuels ou annuels. Enfin bon,
il est hyper compétent, le mec qui touche 13 millions d'euros, hein, finalement.
Oui, voilà. Oui, c'est un peu. Donc, je trouve que.
Il passe ses journées à bouffer, il peut prendre des décisions, il touche 13 millions, quoi. C'est sympa.
Non, mais bon, quelle est la logique derrière tout ça? Donc non, je veux dire, la proposition de Jean-Luc Mélenchon, elle tient la route et ouais, voilà, elle est voilà. Pas si c'est pas un luberlu.
Merci à tous les deux. On va écouter une petite chanson de la dernière et ensuite on prend la parole.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite. Cantate qui monte vers toi, cette petite cantate qui monte vers toi. Si milore, si milore, si sale donc.
Et oui, vous avez tous reconnu Barbara, bien sûr, la célèbre Barbara, voilà. Très bien. Donc cette émission reprend, c'est Fréquence Pas Pluriel, 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Nous parlions effectivement des écarts de salaire entre patrons et ouvriers, de 1 à 20 pour Mélenchon. D'ailleurs, à ce propos, Florian, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet écart?
Bah effectivement, de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il faut limiter les revenus des patrons quand on voit de tels écarts, quoi. Après, alors le 1,20, pourquoi pas un 1,5 tant qu'on y est. Moi, je voilà quoi. Mmh. Ce qui est certain, effectivement, c'est que c'est insupportable de voir des gens qui, d'un côté, souffrent en travaillant et ont des revenus absolument insuffisants pour vivre, et de l'autre côté, ces aberrations des salaires à 13 millions, effectivement, ou voire même des fortunes à 2 000 milliards d'euros, quoi.
Tu penses à quelqu'un là, 2000 milliards d'euros?
Ouais, je peux en citer quelques-uns, quoi. Il y a Madame Bettencourt, par exemple. Il y en a quelques autres comme ça. Mmh.
Et en plus, qui ne paye pas beaucoup d'impôts, ouais. En fait, mmh. À la rigueur.
Voilà. Oui, avec quelques petites exemptions, quoi, parce qu'il y a du copinage aussi.
Oui, puis il y a quelques facilités aussi.
Alors, Ludo, dis-moi un petit peu le programme, un petit peu de cette marche des chômeurs.
Alors, donc la marche est partie donc le 13 juin, donc vous n'avez pas suivi, et elle est partie c'est les Réunionnais qui se sont, puisque là-bas, c'est un peu compliqué au point de vue du chômage. Hein. Voilà, et donc le 15 juin, ils étaient à Montpellier. Et alors ils n'ont pas choisi Montpellier l'Hérault par hasard, c'est parce que c'est une région qui est où il y a énormément de chômage en fait. Hein, le sud-est et le sud-ouest est très est vraiment touché en fait. Bon, c'est des régions viticoles, donc voilà. Et donc ensuite, donc ils feront Montpellier 7 le 17 juin. Donc là, c'était il y a quelques jours. Ils sont actuellement donc à Carcassonne, Castelnaudary, donc le super château, vous voyez. Et donc ils vont continuer jusqu'à Toulouse le 22 juin. Et donc à Toulouse, en principe, il y aura une soirée qui sera organisée sur la place du Capitole. Et ça va être assez sympa, voilà, puisque comme on l'a dit, c'est une occasion de débattre, hein, tout simplement, et puis d'attirer l'attention sur le fait que, même si on le sait, même si la télé le fait, c'est pas pareil de voir des gens directement concernés défiler puis revendiquer. Alors ensuite, ils seront donc à Cahors le 24, puis à Clermont-Montluçon le 27, à Montluçon-Blois, puis à Chartres. Ils arrivent en banlieue parisienne du 28 au 3 juillet, et ils seront à Place Stalingrad le 6 juillet. Donc en fait, vous pouvez retrouver le programme sur le site de la Fondation Copernic. Alors il y aura des villes où il y aura un peu plus d'événements, donc notamment à Bordeaux, au Creusot, au Mans, à Caen, à Saint-Étienne. Voilà. Et donc je le disais, attendez, je cherche. Non, mais je retrouve pas la fiche, mais enfin bref, à Toulouse, apparemment, il va se passer un événement assez conséquent en soirée, quoi.
Comme quoi on peut être chômeur, savoir revendiquer, évidemment, se battre pour ses droits, hein, c'est important. Surtout, venez soutenir cette marche en venant à Place Stalingrad le 6 juillet. Je n'ai pas l'horaire encore en tête, mais bon, je vous le donnerai à la prochaine émission. Ce sera vers midi, 11h, on sait combien en régie, entre 11h et 13h à peu près, Place Stalingrad. On mangera, on boira, peut-être qu'on fera peut-être même la fête, comme quoi les chômeurs savent faire aussi la fête. Hein, il faut garder le moral quand même, parce qu'on peut peut-être essayer de s'en sortir un petit peu. Mais surtout, il faut surtout se mobiliser et rentrer dans des structures un peu syndicales, etc. Les CGT chômeurs avec nous ce soir, mais il y a également le MNCP, AC, etc. Donc mobilisez-vous, venez nous soutenir. Vous pouvez aussi participer à cette émission en nous appelant au 01 40 05 06 10. N'hésitez pas à le faire. Il faut se révolter. C'est essentiel. Très bien. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux.
Un revenu, c'est un droit.
Un revenu, c'est un droit. Voilà. C'est exact. Et la retraite, c'est un dû, parce qu'on a travaillé pour l'avoir. Donc, normalement, on devrait l'avoir. Hein. Voilà.
Voilà. Un revenu, c'est un dû. Un travail, c'est un droit.
Merci, Ludo. Merci, messieurs, d'avoir fait cette émission avec moi. Merci à Claude pour la technique. Nous, on reprend cette émission dans 15 jours. Merci, messieurs, dames, de l'avoir suivi. Je fais un gros bisou aux filles et une poignée de mots aux garçons. Salut.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Allons là, ma vigne pousse long là, c'est l'avenir qui pousse là. Allons là, ma vigne pousse long là, c'est l'avenir qui pousse là. now.